Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au forum du studio Kalangou diffusé sur l'ensemble des 52 radios partenaires. À Gaïa, vous pouvez nous suivre sur la radio Farha. L'année dernière, le département de Gaïa compte 236 élèves handicapés scolarisés, dont 102 filles. Une statistique en constante progression par rapport aux années précédentes. L'essor de ces chiffres reflète un engagement croissant en faveur de l'éducation inclusive. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Éducation inclusive à Gaïa, quelles sont les avancées ?» Quelles sont les avancées, bien évidemment, quels sont aussi les défis à relever pour permettre à chaque enfant d'accéder à une éducation de qualité, quelles que soient ses particularités. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir deux invités. Il s'agit de Abdoulaye Aboubakar Dansalatou, il est l'inspecteur des enseignements préscolaires et primaires Gaïa 1. Inspecteur, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes également en compagnie de Younoussa Maman Kadadé, il est le président départemental des handicapés de Gaïa. Younoussa, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté notre invitation à la présentation de ce forum. Je suis Fadel Alou. Commençons tout de suite avec notre premier tour de table. Monsieur l'inspecteur Abdoulaye Aboubakar Dansalatou, en tant qu'inspecteur des enseignements préscolaires et primaires Gaïa 1, pouvez-vous nous expliquer comment la politique nationale de l'éducation inclusive est mise en œuvre dans votre inspection?
De prime abord, je commencerai par vous adresser tous mes remerciements. Ici à Gaïa, avec l'intervention des partenaires, je peux citer TOFI, tous les acteurs prenant part au niveau de Gaïa, de l'éducation évidemment, et perçoivent l'éducation inclusive sous l'angle de droit. Les élèves handicapés sont des élèves qui ont les mêmes droits que tous les autres élèves, c'est-à-dire les non-handicapés. Et cela est en train de nous faciliter la tâche, ce qui peut expliquer la progression chaque année des effectifs au niveau des écoles. Je veux parler de deux écoles qui font l'éducation inclusive au niveau de l'inspection Gaïa 1. C'est l'école Kouaretagi 1 et l'école Kouaretagi 2, comme vous l'avez dit, qui comptait l'année dernière 236 élèves handicapés, dont 102 filles. Et si on fait la situation par école, Kouaretagi 1 comptait à l'année 2023-2024 141 élèves, dont 67 filles. Kouaretagi 2, 95 élèves, dont 35 filles. Pour cette année, le recrutement est en cours. Comme vous le savez, même au niveau de l'enseignement classique, le recrutement court jusqu'en décembre. Mais présentement, nous sommes en train d'avoir le jour où nous avions fait le tour. Au niveau de Kouaretagi 1, j'avais retrouvé 5 inscrits et Kouaretagi 2, 4 inscrits. Et donc, ce n'est pas une surprise si aujourd'hui, ils sont allés à des vingtaines.
Depuis quelle année cette initiative a commencé ici dans le département et comment est-ce qu'elle a progressé jusqu'à aujourd'hui?
Donc, l'initiative, Younoussa va rectifier sûrement, puisque moi, ma prise de service, c'était en novembre 2021. Mais l'initiative a commencé en 2019 en tant que telle. Mais les statistiques que j'ai eu à visiter, j'ai trouvé qu'en 2020-2021, il y avait 55 élèves. 2021-2022, l'année de ma prise de service, cet effectif-là s'est accru de 115 élèves, plus les 55, pour aller à 130. Et aujourd'hui, nous sommes à 236, donc le progrès est noble. Cette initiative était l'initiative d'un pasteur qui était là, qui a voulu aider. Donc, et c'est parti jusqu'à l'arrivée des partenaires.
Merci beaucoup, merci. Monsieur l'inspecteur. Je viens à vous, Younoussa Maman Kadadi. Je rappelle que vous êtes le président départemental des handicapés de Gaya. Donc, en tant que président des handicapés, vous êtes également enseignant spécialisé en braille. Pouvez-vous nous parler de comment est née cette idée d'éducation inclusive à Gaya?
Oui, comme l'a dit monsieur l'inspecteur, ça a débuté en 2019. Mais compte tenu du problème de COVID-19, oui, ça n'a pas eu lieu en 2019. Il a fallu en 2020 et ça a débuté. Ça a débuté avec la formation d'une conseillère et un inspecteur pédagogique de 10 jours à Dosso. Mm-hmm. Après, on a formé 10 enseignants à Niamey pendant un mois, mm-hmm, avant de débuter en 2020. Après, on a procédé à recensement des enfants handicapés dans dans la ville de Gaya. Mm-hmm. Et c'est ce qui, à travers le projet TOFI, c'est eux qui nous ont appuyés à former les inspecteurs, le conseiller et les enseignants, mm-hmm, avant de débuter.
Pouvez-vous nous parler aussi des actions qui sont menées pour rendre l'éducation accessible aux enfants handicapés?
Oui, on a fait des sensibilisations dans la ville, aussi toujours dans le but de sensibiliser les parents, mm-hmm, de ne pas laisser les enfants handicapés à la maison. Ils ont le droit que tous les autres enfants non handicapés de l'inscrire à l'école et aussi dans l'avenir, ils vont se prendre en charge au lieu de les cacher dans la maison. Mm-hmm. Oui, ça peut partir des actions qui ont été menées. Aussi, le partenaire nous a appuyé des matériels adaptés aux élèves handicapés. Et bien que vraiment, c'est des matériels qui sont très chers.
Ok. Mais parlant aussi du soutien là, est-ce qu'il y a aussi des plans mis en place pour soutenir ces enfants tout au long de leur parcours scolaire?
Oui, en tout cas, déjà, tout enfant inscrit, il a le droit que l'État prend en charge son scolarité, mais maintenant l'État ne peut pas tout prendre en charge. Mm-hmm. Oui, mais il y a le partenaire aussi qui vient en aide, bien que le projet TOFI est en termes de son appui. En tout cas, pendant les 4 ans, tout enfant inscrit, mm-hmm, dans les deux écoles, oui, a une subvention de 10 000 francs par mois qui les amène pendant chaque trimestre 30 000. C'est ça que nous bénéficions avec le projet TOFI à l'égard de ces enfants handicapés inscrits dans les deux écoles, mmh, Kouartegui 1 et Kouartegui 2.
Mmh. D'accord, merci beaucoup, Président. Je viens à vous, inspecteur. Tout à l'heure, vous avez développé les chiffres de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les principaux objectifs que vous vous fixez et quel progrès avez-vous observé depuis le début jusqu'à aujourd'hui?
Permettez-moi de compléter un peu l'information, mm-hmm, des appuis que le partenaire nous apporte.
Oui.
En dehors des subventions de 10 000, le partenaire a organisé des activités génératrices de revenus à l'intention des parents de ces élèves handicapés. Mm-hmm. Et également des kits, des chèvres ont été remis l'an dernier, mm-hmm, à ces élèves handicapés, pour un peu soutenir les parents à subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, et également, en dehors du partenaire TOFI, il y a une ONG CIES qui organise des déjeuners pour un peu atténuer la souffrance des élèves quant au déplacement avant la journée continue, c'est-à-dire la pause entre midi et 15h, oui, au lieu que les élèves se déplacent pour se rendre à la maison. Donc, on a organisé des déjeuners pour permettre aux élèves de rester jusqu'au soir. Mm-hmm. Donc, ça, encore, c'est un appui très important.
D'accord.
Donc, nous, notre objectif par rapport à l'éducation inclusive, comme je l'ai dit dans mon introduction, maintenant, l'éducation des élèves handicapés, ce n'est plus perçu comme une charité ou une faveur à l'endroit de ces élèves, sur leurs droits, au même titre que ceux qui ne sont pas handicapés. De là, je peux dire d'emblée que notre objectif, c'est de faire un 100% d'éducation pour tous les élèves handicapés, tout type d'handicap, compris. On veut avoir tous les élèves handicapés à l'école. C'est ça notre objectif. Et à Gaya, vraiment, c'est un objectif que nous pourrions atteindre vu l'engouement que suscite cet enseignement.
Et au sujet des progrès, qu'est-ce que vous avez observé du début jusqu'à aujourd'hui?
Donc, le progrès que nous avons observé est que vraiment les parents ont compris. Parce que de nos jours, on voit un parent quitter la périphérie pour venir inscrire son enfant handicapé au niveau de ses écoles. Et un deuxième progrès, avec l'appui que le partenaire apporte, on a compris que même ces parents-là sont en train de se dépenser pour l'éducation de, leur, de leurs enfants. Donc c'est vraiment un progrès. Et vraiment, lors des passages des recensements des enfants handicapés dans les quartiers, nous avons toujours été aidés par les chefs de quartier et les voisins. Et même si les parents, s'il arrive à ce qu'on saute un enfant, le parent vient réclamer que son enfant a été sauté. Vraiment, le progrès est que les gens ont compris, les gens se sont intéressés et ils ont à 100% adhéré à cette initiative. C'est vraiment un progrès, comme le témoigne le peut le témoigner les chiffres.
Les chiffres, oui.
Si nous prenons de 2020-2021, 55 élèves, on vient à 2023-2024, 136 élèves. Vous voyez?
C'est énorme.
C'est énorme.
Voilà. Maintenant, parlons de l'enseignement proprement dit. Comment elle se passe? Quels sont les types de handicaps que vous prenez en charge dans les écoles? Et comment se passent les enseignements?
Et je commencerai d'abord par énumérer les types d'handicaps. Il y a des handicapés physiques. Peut-être que ce sont les membres supérieurs ou inférieurs, voilà, qui sont entamés, qui sont attaqués. Et les handicapés visuels, auditifs, des handicapés intellectuels, bégaiement et les albinos. Donc un handicapé physique, par exemple, un enfant handicapé locomoteur, il peut suivre le cours en même temps que son élève qui n'est pas handicapé locomoteur. Donc lui, son besoin spécifique, peut-être c'est au niveau de son accessibilité à la salle de classe, mais en termes de travail en classe, tout ce que l'autre peut faire, il peut suivre avec lui, il voit, il entend, il peut écrire, voilà. Donc, pour d'autres handicaps, comme les handicapés visuels, eux, au niveau de l'écriture, ils ont besoin de ce qu'on appelle le braille. Donc, le braille n'est pas à la portée de tout enseignant. Il faut forcément quelqu'un qui a été formé et qui comprend comment les choses se passent. La même chose pour les handicapés auditifs. La même chose pour les handicapés intellectuels. Vous voyez, pour les albinos, là, vous voyez, ils ont besoin de protection, mais en classe, ils peuvent faire la même chose, même pour le bégaiement. Donc, par rapport à ces deux types d'handicaps qui ont besoin d'une prise en charge spécifique et spécialisée, je vais parler des handicapés auditifs et visuels. Le projet a formé pour nous 10 enseignants en langue de signes et en braille. Donc, l'enseignement commence d'abord par ce qu'on appelle la classe préparatoire. Quand on amène les élèves, on les place dans une classe préparatoire, là où ils seront initiés à la vie de l'école, où ils seront préparés aux tâches quotidiennes qui se passent à l'école. Une fois cette étape d'initiation finie, ces élèves-là intègrent la classe avec leurs camarades non handicapés. L'enseignant qui les prend en charge, s'il a la formation spécifique en braille, c'est-à-dire au moment de l'écriture, par exemple, quand il fait pour les élèves non handicapés leur écriture, il revient, il prend en charge les élèves handicapés visuels. S'il n'a pas la formation, nous avons un système que nous appelons l'itinérance. C'est-à-dire il y a un enseignant itinérant qui est là, au moment venu, au besoin, on fait appel à lui, il prend en charge les enseignants handicapés visuels. Donc la même chose se passe pour les handicapés auditifs, ainsi de suite. Donc voilà comment nous faisons les choses. Mais j'aimerais que les gens retiennent que l'idée de l'inclusion, ce n'est pas avoir des classes séparées. L'idée d'inclusion, c'est d'avoir et les élèves handicapés et les élèves non handicapés dans la même classe, suivre les mêmes enseignements apprentissage. Voilà. Pour le moment, nous sommes en train de le réussir sans problème.
D'accord.
Pour ceux qui veulent voir le concret, ils peuvent faire un tour au niveau de l'école Kouaretegui 1 ou Kouaretegui 2 de Gaya.
Oui. D'accord. Merci beaucoup, inspecteur. Président, je viens à vous. Cette fois-ci, je vous pose la question en tant qu'enseignant, pas en tant que président départemental des handicapés. Vous avez sensibilisé la population sur la scolarisation des enfants vivant avec un handicap. Maintenant, qu'est-ce que vous observez entre les élèves dans les écoles?
Oui, en tout cas, le lien dans les écoles avec le gouvernement scolaire et des clubs inclusifs à travers le projet TOFI, dont ça a été mis un bureau à l'école Kouaretegui 1 et à l'école Kouaretegui 2. Et aussi, les élèves ont mené des sensibilisations dans les classes.
Les élèves eux-mêmes.
Et les élèves eux-mêmes.
Okay.
Ils ont été formés et aussi, ils ont sensibilisé leurs frères élèves dans les classes, soit disant que l'handicap n'est pas une fatalité, de ne pas négliger les élèves handicapés. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. En tout cas, ça a facilité vraiment de courtoiser entre les élèves non handicapés et les élèves handicapés.
Merci beaucoup, Président. Inspecteur, je reviens sur la même question. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans ce sens-là?
Vraiment, ce que nous sommes en train de faire pour amener tous les autres enseignants, même, je vais dire ceux qui n'ont pas eu la formation. D'abord, le projet nous a aidés, je me rappelle. Ils étaient venus pour nous apprendre ce qu'on appelle le plan d'action inclusif. C'est-à-dire, dans le plan d'action, on regarde quels sont les besoins de ces élèves handicapés, on l'inclut. Il ne suffit pas seulement de parler des hangars et autres. Il faut même penser à ce qu'on appelle l'arrangement raisonnable. Ce sont des termes techniques. Ceux qui connaissent la vie avec les handicapés comprennent ce que je dis. Donc, il faut tout prendre en charge. Les toilettes, il faut faire en sorte que l'enfant ait accès à ces toilettes-là. Si ça n'a pas été fait, il faut prendre ça dans le plan d'action pour leur faciliter la vie à l'école. Donc, ce plan d'action, nous avons été initiés à ça. Et même nos écoles qui ne sont pas avec le partenaire, c'est-à-dire, je vais dire, les autres écoles qui ne sont pas Kouaretegui 1 et 2, nous faisons toujours attention à ce qu'ils mettent ou qu'ils prennent en compte dans leur plan d'action les besoins des élèves handicapés. Également, nous avons organisé une séance de CAPED. CAPED, c'est la cellule d'animation pédagogique avec les élèves, les enseignants spécialisés et les autres enseignants, pour donner la parole à ces enseignants spécialisés pour un peu parler de l'éducation inclusive. Et je vous avoue, vraiment, ça a été très intéressant. Et les choses avancent.
Vous avez aussi évoqué un aspect très important. Vous avez parlé des toilettes adaptées, des rampes, etc. Y a-t-il aujourd'hui des ressources manquantes ou des besoins spécifiques non satisfaits?
Toute personne a des besoins, mais la personne handicapée a encore plus besoin parce que le milieu peut représenter des barrières ou des obstacles à l'accessibilité, à des toilettes, à la classe et même des fois aux tables bancs. Voilà. Donc, jusque-là, les besoins sont là. Parce que depuis les classes qui ont été construites par le projet avec les rampes, deux fois, quand un partenaire, par exemple, je peux prendre l'an passé, nous avons bénéficié de construction des classes, j'ai demandé les rampes. Donc, ça n'a pas été fait. Depuis ce que le projet a fait, on n'insiste pas pour intégrer ça dans les nouvelles classes. Et également, on ne revient pas pour les anciennes classes pour voir ce qu'on peut faire pour les adapter. Donc cela existe pour les toilettes, pour les tables bancs et même pour les classes. Vraiment, le besoin est énorme. La prise en charge d'une personne handicapée vraiment est trop coûteuse. Elle ne devrait pas être laissée à un seul partenaire.
Quels sont aussi, selon vous, les principaux défis auxquels les écoles de Gaya font face pour intégrer tous les enfants, notamment ceux qui ont des handicaps?
Le premier défi, c'est d'abord un problème de compétences de la part du personnel enseignant pour les prendre en charge. Je vous ai dit que le projet a formé 10 enseignants, donc 5 enseignants par école.
Ok, dans l'ensemble du département.
Dans l'ensemble du département, pour les deux écoles, 10 enseignants. Uh-huh. Ces 10 enseignants-là, aujourd'hui, si je fais la situation, il ne reste que 7 enseignantes. Les deux ont été mutées. L'une était tombée malade, ne pouvait plus continuer le travail. Donc nous sommes revenus à 7. L'inspecteur qui a été formé au début du projet, l'inspecteur est parti à la retraite. Moi qui suis là présentement, j'ai bénéficié de beaucoup d'autres. En tout cas, la première formation de base, de la première initiation, je ne l'ai pas eue. Les 3 enseignants qui sont partis n'ont pas été remplacés. Donc vous voyez, de plus en plus, on est en train de reculer au lieu d'avancer. Et même les formations, quand ça vient, c'est toujours un recyclage. Au lieu de former une nouvelle cohorte, c'est toujours les anciens enseignants qu'on prend pour les recycler. Alors que nous avons besoin de la formation d'une nouvelle cohorte. Voilà. Donc le premier défi, c'est d'abord le personnel enseignant.
Et le deuxième?
Donc le deuxième, comme je l'ai dit, la prise en charge des personnes handicapées devrait être une affaire de tous. C'est-à-dire, en dehors du projet, même au niveau de l'État, un effort devrait être fait. Par exemple, au niveau des fournitures, à chaque fois nous l'avons signalé, quand on amène des fournitures, il faut encore demander s'il y a des élèves handicapés à apporter leurs fournitures. Par exemple, le papier braille, et poinçons et autre chose. Donc, cela, si le projet ne l'a pas amené, l'État ne l'a pas amené, et ce sont des trucs qui sont chers et même qu'on ne retrouve pas sur place. Ce sont des difficultés. Donc, vraiment, il faut que chacun apporte du sien pour qu'ensemble, on espère réussir dans cette noble tâche.
D'accord. Merci beaucoup, inspecteur. Président, vous avez aussi quelques difficultés à évoquer concernant la scolarisation de ces enfants-là.
Il y a la distance. Ensuite, il y a l'accessibilité. L'accessibilité, c'est qu'il y a des classes qui n'ont pas de rampe. Puisque même l'année passée, il y avait une classe qui a vraiment des escaliers, un élève handicapé physique. C'est le locomoteur, il ne peut pas monter les escaliers. Il faut que ses amis, chaque matin, le prend pour le faire monter ses escaliers à la récréation, le prend pour le faire descendre avant que nous aurons l'information. Et nous l'avons conseillé, comme l'a dit monsieur l'inspecteur, aménagement raisonnable. Si ces cas pareils existent, maintenant on essaie de voir dans la cour de l'école dans quelle classe cet enfant peut rentrer sans difficulté. Maintenant, on fait un changement. Et l'enseignant qui est dans l'autre classe revient ici et l'autre retourne là-bas. C'est ça qu'on appelle aménagement raisonnable. Comme ça, juste au moins pour lui favoriser de rentrer et sortir sans difficulté. Au niveau de la douche, où on veut mettre du fer pour que même les personnes handicapées physiques ne puissent pas se salir, bon, aller faire ses besoins comme tous les autres élèves non handicapés.
Et du côté du matériel aussi, comment est-ce que vous vous débrouillez? L'inspecteur a évoqué tout à l'heure l'insuffisance du matériel, compte tenu parfois que cela ne vous vient pas en quantité suffisante, ou même de la cherté. Comment est-ce que vous vous débrouillez avec ce matériel?
En tout cas, c'est ça. Au niveau des matériels, vraiment, il y a un grand défi, puisque si on amène la dotation, on ne reçoit pas la dotation en même temps pour les élèves non handicapés et les élèves handicapés ensemble. Même l'année passée, il a fallu par après, ici dans le département des Gaïa, nous avons eu pour la dotation de l'État demi-blocs de papier. Et demi-blocs de papier, si ce n'est pas avec l'appui du projet que nous aurons des papiers, puisque c'est des papiers qui sont très chers. Et un bloc de papier de 300 pages et de 300 feuilles, disons, coûte 15 000 francs. Et si vous prenez une page ordinaire, fait au moins 4 pages en braille, ça consomme beaucoup de papier. Et c'est avec ça que nous faisons la préparation, faire l'exercice, les leçons des élèves et faire des livres aussi pour les élèves. C'est vraiment une éducation dont le parent seul ne peut pas vraiment prendre en charge. Surtout, la majorité des enfants sont des enfants de pauvres.
Et maintenant, par rapport aux classes inclusives, comment est-ce que vous arrivez à faire les traductions de l'écriture noire vers l'écriture braille, tout ça là? Comment ça se passe?
Oui, maintenant, si un élève, par exemple, si vous prenez un élève handicapé visuel, s'il a fait son devoir en même temps avec ce frère élève non handicapé, maintenant, lui, on transcrit ses écritures en bic pour permettre à l'enseignant, même s'il n'a pas la formation, de savoir ce que l'enfant a résumé pour voir s'il a trouvé ou pas. Et même à l'examen, composition, tout, c'est pareil du CI jusqu'au CM2.
D'accord, merci beaucoup. Inspecteur, par rapport à la transcription, avez-vous le matériel nécessaire pour faire tout ce travail-là?
Oui, merci de me le rappeler. Et l'inspection Gaïa 1 est l'une des rares inspections qui a l'imprimerie Braille. Nous avons une imprimerie Braille avec un agent affecté à la tâche qui est en train de transcrire tous les livres du primaire en Braille. C'est-à-dire, c'est un dispositif qui est là, on prend un livre, on le scanne, la machine fait la transcription, elle ramène ça en braille et on imprime. Voilà. Donc, en même temps, pour les devoirs des élèves, on peut venir à l'imprimerie braille, transcrire ça en braille et soumettre ça à l'enfant. Et par exemple, pour le collège, Younsaï a le dire, il y avait deux professeurs qui ont été formés. Les professeurs qui ont été formés en cas de devoir, c'est eux qui vont faire la transcription et pour donner à l'élève. Après sa composition, ils reprennent ça pour transcrire ça en écriture ordinaire pour soumettre à l'enseignant pour correction. Donc voilà comment ça se passe, la transcription. Sans oublier que dans les écoles, il y a la machine qu'on appelle la machine Perkins. Cette machine-là permet à l'élève, sous la diction du maître, lui aussi, il peut écrire directement ses leçons sous forme de braille. Donc voilà comment les choses se passent.
Je reste toujours avec vous, cette fois-ci, pour parler des mesures supplémentaires qui pourraient être mises en place pour améliorer davantage l'éducation inclusive dans l'ensemble du département.
Vraiment, nous encourageons, nous saluons l'implication de la communauté de façon générale et des autorités de façon particulière. Nous sommes soutenus par toutes les autorités coutumières et administratives dans cette initiative. Mais comme je l'ai dit, ça demande beaucoup. L'éducation coûte cher et surtout celle des élèves handicapés. Et ces élèves-là ont besoin vraiment d'être sécurisés aux abords de leur école. Nous demandons des panneaux de signalisation et même dans la ville, vraiment la sensibilisation doit être accentuée pour que tout celui qui rencontre un élève handicapé, de lui faciliter la tâche pour que les cyclistes, les motards, les véhicules s'arrêtent pour céder le passage à ces gens-là. Pourquoi pas descendre pour les guider, surtout les handicapés visuels. Vraiment, donc nous demandons à ce que la sensibilisation soit encore beaucoup accentué pour que vraiment les quelques tards que nous constatons soient corrigés. Et que celui qui veut contribuer également, qu'il sache que la porte est ouverte, il peut le faire à travers la mairie, à travers la préfecture ou directement venir à l'école. Vraiment, si vous donnez votre contribution, nous vous serons redevables. C'est-à-dire, vous pourriez encore revenir pour demander ce que vous avez contribué là. Quelle a été l'utilisation? Tout est transparent. En tout cas, que les gens sachent que la prise en charge d'une personne handicapée, elle est multi-acteur. Elle coûte cher. Pour la énième fois, je vais le dire.
Partagez avec nous un exemple qui vous a marqué d'une élève ou bien d'un élève qui a progressé depuis en tout cas la mise en place de cette éducation inclusive ici dans l'ensemble du département.
Les exemples sont nombreux, mais comme vous avez dit, je peux citer...
Vous pouvez citer autant que vous voulez, tant que c'est intéressant, voilà. On écoute.
La première des choses qui m'a marqué, c'est de voir dans la cour de l'école les élèves handicapés tissaient des relations d'amitié avec les élèves non handicapés. Vous allez voir des élèves non handicapés communiquer, causer, si je peux le dire, avec les élèves handicapés auditifs. Des élèves sans handicap en train de faire des langues de signes à leurs camarades, sont en train de causer. Des élèves non-voyants et des élèves qui voient en train d'apprendre leurs leçons ensemble. Et ils ont tissé des relations. Je prends par exemple ce qui se passe chez moi. L'élève Najim qui vient chez son camarade de troisième. Et ils font leur exercice ensemble. Un non-voyant et un voyant. Ils sont toujours ensemble. Vraiment, c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué, qui, dans le temps, il serait très difficile de voir ce genre de relations se tisser. Hamida Haruna, elle également. Elle est non-voyante, mais tous ses amis sont des voyantes. Toutes ses amies sont des voyantes. Elles sont toujours ensemble. Elles travaillent ensemble. Donc, c'est vraiment un progrès notoire, puisque pour celui qui est avec les personnes handicapées, il y a la stigmatisation. Donc, le premier progrès que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a plus de stigmatisation entre ces élèves-là. Les élèves handicapés n'ont pas le complexe d'être avec les élèves non handicapés, et les élèves non handicapés n'ont rien à vouloir stigmatiser les élèves handicapés. Ça, c'est vraiment un progrès à noter.
Au-delà du cadre scolaire, est-ce qu'il y a des initiatives, d'autres projets hors de l'école qui s'occupent aussi de ces enfants-là,
oui,
dans le cadre de leur épanouissement?
Et quand je prends l'ONGCS, hors du cadre scolaire, a initié des formations à l'intention de ces élèves handicapés. Des formations sur le tissage des chaises et autres. Donc, vraiment, nous saluons cela. Et même maintenant, ils sont sur le projet de vouloir construire un atelier au niveau de l'école à Kouaratagui-2 pour encore plus
aider les enfants.
Donc, cela vraiment m'a beaucoup marqué et c'est une initiative à saluer. Et également, dans toutes les structures ici à Gaya, de plus en plus, nous sommes en train de voir les handicapés prendre la place qui leur revient dans ces structures. Si nous prenons au niveau de notre FCGDS, la Fédération communale de COGES, il y a un représentant des personnes handicapées. Parmi les ONG et les associations actives en éducation, nous avons la FNPH qui, à chaque fois, prend sa place de droit dans toutes les activités. Donc ça encore, c'est une initiative, c'est un constat vraiment à souligner et à encourager.
Merci beaucoup, inspecteur. Président, quelles sont aussi les histoires ou les actions qui vous ont beaucoup plus marqué dans le cadre de l'éducation inclusive à Gaya?
Oui, en tout cas, les histoires qui m'ont beaucoup marqué, c'est toujours la collaboration des élèves handicapés et non handicapés, vraiment. Et ça m'a beaucoup marqué. Ensuite, maintenant, les enseignants, même ceux qui n'ont pas eu la formation en éducation inclusive, ne refusent pas ou ne refoulent pas les élèves handicapés dans leur classe, même s'ils n'ont pas réussi. Vraiment, ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et en plus, si vous prenez dans la ville, chaque comité qui sera mis en place, on réserve une place aussi des personnes handicapées. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Ici, par exemple, un bureau communal, tous les bureaux qu'on va mettre ici à Gaya, à travers l'éducation inclusive, puisque l'inclusion, c'est pas à l'école seulement. Si on dit l'inclusion, c'est d'inclure les personnes handicapées dans chaque activité du développement communautaire et du pays. En tout cas, vraiment, ici à Gaya, Dieu merci, vraiment, ça avance. Et le projet CIES aussi, qui aide les élèves handicapés avec vraiment les manger à l'école pour les élèves handicapés visés à l'école au Kouaratagui 2. Ensuite, la fabrication de savon liquide, ça c'est hors l'école. Et les tissages de chaises, comme l'a dit monsieur l'inspecteur. Mmh. Ensuite, il y a le projet Mournayar aussi. Et les Hamida et Najim dont on a parlé, Hamida aussi, elle était parmi les élèves secondaires qui ont été formés sur l'éducation inclusive, les élèves handicapés et non handicapés des quatre collèges de la ville de Gaya. En tout cas, ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Et il y a aussi quatre enseignants et professeurs, disons, qui ont été formés en éducation inclusive. Mmh. Et un conseiller pédagogique.
D'accord. Maintenant, en tant que président des départementales de la Fédération des handicapés, des personnes handicapées, quel rôle joue la fédération dans le cadre de la scolarisation des enfants?
Oui, le rôle que la Fédération des personnes handicapées joue de plus, c'est de sensibiliser les parents et faire des plaidoyers au niveau des autorités administratives et coutumières. Uh-huh. De contribuer pour la meilleure éducation inclusive. Uh-huh. Et surtout les chefs traditionnels et qui sont toujours avec les parents des enfants. Et ils sont mieux placés que tout le monde, à savoir tous les enfants handicapés de leur quartier. Uh-huh. Donc, ils aussi de sensibiliser les parents qui ont des élèves, qui ont des enfants handicapés et qui ne les ont pas scolarisés, de les sensibiliser. D'inscrire leurs enfants, mm-hmm. et ils ont le même droit que tous les autres enfants d'être scolarisés. Mm-hmm. En tout cas, les chefs du quartier, les chefs du canton, vraiment, nous ont beaucoup appuyé vraiment à travers cette sensibilisation.
Mm-hmm. Inspecteur, je reviens à vous. Selon vous, quelles sont les améliorations à apporter pour que tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap, puissent se sentir pleinement intégrés dans le milieu scolaire? Ou bien y a-t-il des initiatives que vous aimeriez voir se développer dans votre école?
C'est d'abord d'accentuer beaucoup le renforcement des capacités de tous les enseignants par rapport à l'inclusion. Tous les enseignants sans distinction. Mm-hmm. C'est-à-dire il ne faut pas seulement se limiter à partir de deux écoles. Pourquoi ne pas élargir ça sur l'ensemble du département de Gaya? Parce que présentement, j'ai commencé à voir des élèves handicapés qui quittent Kwacha pour venir jusqu'à Gaya.
Plus de
6 kilomètres pour venir. Donc vraiment, c'est pénible. Donc le renforcement des capacités et également l'effectivité du plan d'action inclusif au niveau des écoles. Avant l'arrivée du partenaire, toutes les solutions réalisables au niveau local, qu'on puisse le faire de façon à permettre à ces élèves handicapés de se voir vraiment, d'avoir une accessibilité facile aux locaux, aux toilettes et même d'avoir les mêmes chances d'apprendre que leurs camarades non handicapés. C'est pourquoi ici au niveau de Gaya Inspection, cette année nous allons beaucoup accentuer sur des CAPEDs inclusives de façon que tous nos collègues soient sensibilisés par rapport à ce type d'enseignement et s'intéresser de façon à... Puisque chaque enseignant, comme on le dit, dans son quartier, s'occupe de la sensibilisation s'occupe de la sensibilisation de sa communauté. Mmh. Si les enseignants ont pris conscience de l'importance et de la facilité de cet enseignement, vraiment, ça va contribuer beaucoup. Voilà, donc ce qui m'a marqué, que je ne devrais pas omettre, c'est de voir les élèves handicapés dépasser les élèves non handicapés. Ça, j'ai été souple.
En matière de performance scolaire.
En matière de performance scolaire. Mmh. Un élève handicapé non-voyant devenu premier de sa classe devant les voyants. Ça, c'est quelque chose à souligner. Et mieux ici à Gaya, nous avons vu un élève handicapé qui est devenu premier de son niveau. Pas de sa classe, de son niveau départemental. Ça, c'est vraiment quelque chose à remarquer. Et également... l'inclusion par le sport, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué au niveau de l'éducation inclusive, là où on est arrivé à trouver des moyens et des stratégies à permettre aux élèves handicapés de jouir de leurs droits, de s'épanouir à travers le sport. Donc maintenant, on fait l'EPS avec les élèves handicapés et non handicapés sur le même terrain. Voilà, avec des moyens adaptés. C'est quelque chose qui m'a beaucoup
Et ça se passe bien.
Ça se passe très bien. Peut-être, si vous avez le temps.
Je passerai voir, voilà. Inch'Allah. Plaise à Dieu. Merci beaucoup. Merci, inspecteur. Président Younoussa Maman Kadadé, y a-t-il un message particulier que vous aimeriez adresser aux décideurs ou aux membres de la communauté?
Nous voudrions que vraiment que l'État ou bien des partenaires appuient pour multiplier la formation, de former tous les inspecteurs en éducation inclusive, en langue des signes et en braille. Aussi les conseillers pédagogiques, de former les responsables administratifs, par exemple les délégués, et de les former sur l'éducation inclusive, les chefs du canton, de toutes les communes. Nous voudrons qu'on puisse les former, au moins eux aussi, pour accélérer à une éducation inclusive, que ça ne sera pas à Gaya, commune urbaine seulement. Nous voudrons que dans toutes les communes de Gaya, que l'inclusion des élèves handicapés soit vraiment au jour comme à Gaya, vraiment de manière que ça a progressé ici. Nous souhaiterons que dans les autres communes, nos frères et enfants handicapés et de parents aussi, de multiplier l'inclusion. Et aussi, de faire de la sensibilisation, dans toutes les communes, pour sensibiliser la communauté sur l'éducation inclusive. C'est ça vraiment notre sujet, parce que maintenant, si vous prenez dans les deux écoles, les statistiques de l'année passée, on a 236 élèves handicapés, et c'est dans la commune urbaine et dans les deux écoles seulement. Et il y a 6 communes dans le département de Gaya. Donc, ça reste beaucoup à faire.
Merci beaucoup, Président. Je laisse l'inspecteur dire son mot de la fin avant de conclure. Inspecteur.
Permettez-moi également de rappeler que vraiment, en matière de prise en charge d'un enfant, de façon générale, il faut considérer deux points. Ce qu'on appelle le droit de l'enfant et les désirs de l'enfant. Donc, ici, j'ai amené cette idée pour que vraiment que les gens perçoivent que certaines choses pour les élèves handicapés sont de droit. Un élève handicapé locomoteur, le vélo tricycle, c'est un droit pour lui. Parce que sans ce vélo-là, il ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas se rendre à l'école. Donc, vraiment, que prochainement, que la sensibilisation soit accentuée sur cet aspect. Si j'ai deux enfants... L'un est handicapé, l'autre n'est pas handicapé. Pour l'handicapé, tout ce qui lui permettra de se sentir à l'aise et d'être souverain, c'est un droit pour lui. Je dois lui faire ça sans tenir compte du fait que j'ai acheté un vélo pour mon élève, pour mon enfant handicapé et l'autre qui n'est pas handicapé, je ne lui ai pas acheté de vélo. Ce n'est pas une injustice. Pour l'handicapé, c'est un droit.
Merci à vous deux pour ces échanges enrichissants et pour vos contributions. Nous avons pu constater qu'il existe des avancées dans le domaine de l'éducation inclusive à Gaya, mais aussi des défis importants à surmonter pour offrir à chaque enfant un accès équitable à l'éducation. Merci à vous, monsieur Abdoulaye Aboubakar Dansalatou. Je rappelle que vous êtes l'inspecteur des enseignements primaires et préscolaires Gaya 1. Merci également à Younoussa Maman Kadadé. Il est le président départemental des handicapés de Gaya. Il est également enseignant spécialisé en braille. Et merci à vous aussi, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro du forum. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.